I would like to begin by thanking Jean-Marie Schaeffer and Nathalie Blanc for organizing this wonderful conference and for all the participants that made it possible. This is a very changing form because my title has changed three times. The current title is Form as Sensibility. In order to say anything about environment, it is necessary to have a common understanding of what environment is. This is not a simple matter, for there are different competing ideas about environment that support vastly different directions and actions. I hope that what I have to say will bring together many of the presentations that we have heard. Environment is often thought of as our surroundings, as the environment, and the environmental and environmental forms are usually understood as discrete objects, such as gardens, landscapes, parks, cities, and the like. But there is a factor sorely missing from such thinking, the human presence. And when this is introduced in the context of appreciation, the human factor is often dismissed from the scientific perspective as subjective. I would like to show how it is possible to think of environment not as surroundings on the outside, not as an object of quantitative measurement in units of carbon emission or degrees of regional warming, not as the subject of resource management, but as a human situation, une situation humaine. I want to show how thinking of environment as a separate object made up of a collection of individual objects is not only mistaken, but problematic. This is because objectifying environment obstructs the consideration of ways of responding to environmental problems that satisfy the needs of both people and the conditions under which people live. Perhaps an aesthetic understanding of environmental form can mediate among the natural sciences, the social sciences, the humanities, and the arts. This is a big agenda, but let us make a start. 2, where is the environment? Stating the question in this way presumes that there is an object in question, the environment. An object is a separate, largely independent entity that is bounded, that is, it has clearly defined boundaries and can be localized. Where then is this object? The environment. Where are its boundaries? Thinking of environment as an object is so common and familiar that we have grown accustomed to regarding environment as a thing, as something apart from us, something out there, the environment. This is one of many cases in which an abstraction has come to be regarded as an entity that has an identity of its own, even an essence. Common sense confers such thinghood on environment. I want to argue, contrary to this view, that there is no such object, environment. The idea of an object is actually highly abstract. What we ordinarily call objects exist in a network of relationships and uses. The boundaries of ordinary objects are fluid and depend on the uses and activities in which they participate. That is to say, their context. A similar point can be made about other objects that have been used to specify the meaning of environment, such as biosphere, ecosystem, and Gaia. Biosphere refers to all living things on the planet. It is too inclusive to be useful except in specifying the more general context of all living things existing in reciprocal relation with each other and with non-living things such as soil, climate, and geography. Ecosystem is a concept signifying a particular context of interdependent organisms. While valuable for the insight of reciprocal relationships that it carries, ecosystem is a problematic concept because internal changes such as growth and decay occur regularly, as do external changes in climate and cataclysmic disruptions in weather and geography, such as earthquakes and continental drift. These may be irregular, but they are constant. The boundaries and constituents of an ecosystem are fluid and always changing. Similar problems confront political objects. The nation-state is in the process of being surpassed by other political entities, such as regional and political alliances. Ethnicity is not restricted to a geographical location, but crosses national boundaries and even continents. Interest groups and their lobbies, international corporations, international terrorist organizations, military alliances, financial organizations, and networks, such objects are not discrete or often even coherent. The internet is an environment, a virtual environment, with no precise or firm boundaries. It is not an object, but exists in the context of its users and uses that are in relation to its users and always fluctuating. To think of a world of objects is actually an obsolete way of thinking, and the idea of form is similarly misleading. Form tries to see things whole, but succeeds only in separating them, seeing them from the outside. From the inside, such so-called things are really contexts, situations, or fields of relationships. Perhaps we should think in terms of context or field, of environment as a context or field of forces. Context is a holistic idea and requires greater precision. Consider some environmental contexts. Region can be understood not as a geographical unit or form, but as the concept of a geographical area determined by relationships and functions and varying in extent by the uses to which the concept is put. A neighborhood can be understood not as a physical or social entity, but as a functional confluence of people, structures, and activities in geographical proximity. A community becomes a socio-physical context, an ecosystem, a biological context, the Gaia hypothesis, a planetary context. These are all contexts or fields of forces that involve complex nature-human functional relationships. There are other ways of thinking of environment contextually. I like the idea of a field, an aesthetic field. This is a network of dynamic relationships that emphasizes its perceptual, its sensory characteristics, what Jean-Paul Thibault has called its sensory fabric. This recognizes the aesthetic character of environment. Environment has become a perceptual field, no longer an object, no longer the environment. Urban experience. Let me turn to the city, the most distinctive and exemplary human environment. It is most common to think of the city as a place and of different cities as carrying distinctive place identities: Paris, Rome, New York, Beijing. But to consider the city as a place is to take it as a thing, a physical construction and location. This does not identify the city as we experience it, the city as lived, the living city, as Frank Lloyd Wright called it. From the vantage of the city dweller, the city is an inhabited space. Buddhism has a profound insight in considering space as emanating from where a person is. A person becomes the center of his or her dynamic space rather than understood in reference to a single fixed external point. Einstein led us to understand that there are no fixed points in space. Space is fluid, and it can be anywhere. Absolute objective space is now considered a fiction, useful in limited areas such as those dealt with in classical mechanics or for particular uses such as surveying and ballistics. Space has become a fluid medium, in experience, malleable and variable in different uses, such as dancing, running, and many sports. It was Merleau-Ponty who regarded the human body as the zero point in space, the reference point from which the world is experienced. And the modern dancer, Merce Cunningham, understood space similarly as based on the human body. I quote Cunningham, "When I'm facing this way, that is front. All directions become possible to think of as the front. Think not of a single point in space, but of multiple points, multiple lived directions. Where I'm facing is front." From this orientation, the human experience of the city is not a matter of encountering physical objects or structures. The city becomes inhabited space, human space. One consequence of this understanding is recognizing the importance of scale, so often disregarded in urban planning and zoning, so that the human person is not intimidated, overwhelmed, or submerged by urban experience. Such a phenomenology of human experience leads us to a truer sense of our world. This contextual sense of the city suggests that we have to think about urban experience not as an encounter with a constructed world of objects, but as an experience of aesthetic engagement as part of a human-made context and grasped from the inside. How can this be expressed? What does it mean to recognize the body as the center of urban experience? What is the human experience of environmental forms? To answer these questions requires a different way of thinking about environmental forms and a different understanding of human experience. Consider how such a conception of experience transforms our understanding of some typical urban environments. Take the recreational park. The usual plan of a park envisions it from the outside as a fixed arrangement of pathways, objects, and areas of use. The design offers a bird's eye view and strives to achieve some kind of formal coherence. The Parc Monceau in Paris has a long and interesting history, and it is convenient to think of it as an identifiable entity or place, such as this depicted in the plan of 1790. Parks, however, are areas usually intended for enjoyment, for strolling, nonviolent sports, for simply being part of the landscape. Experienced in this way, parks are known from the inside, so to speak, and artists have captured this experience. Perhaps the most famous depiction of a park is Georges Seurat's Sunday Afternoon on the Island of Grand Jatte. I have all these French examples, excuse me for that. But it's appropriate for this sensibility that I'm trying to describe. This may seem to present a benign, unremarkable scene of people strolling and relaxing on the grass of this island on the Seine near Paris. There is nothing striking in the scene Seurat depicts. There is no unusual geological formation or scenic vista. Indeed, the scene of people strolling on a Sunday afternoon is ordinary and utterly conventional. What is extraordinary and remarkable is how the artist gives us the scene from within, as it were. The painting does not merely depict the scene, it actually conveys the experience of the park from the inside. When painters render the Parc Monceau, they may treat it not as an object abstracted from its actual presence, but as a living place, such as Seurat painted La Grande Jatte. Gustav Kaya Butz's 1877 painting. Offers quite a different sense of the park from the plan we saw a moment ago. Kaya Butz's Parc Monceau is not an objectified, it's not objectified in an abstract plan or distant view, but becomes a richly varied space that invites the viewer to enter the lush green alley and follow the figures in the distance or relax on the bench in the foreground. I see paintings as places to environments to enter. And this is a good example of that. I first visited the Parc Monceau in a painting by Monet, and this led me to search out the actual park during a visit to Paris sometime later. Monet made many paintings of this park, all of which reveal an invitation to enter. These are not objectified views. They are invitations to participate in the park. What is remarkable is how these paintings convey the experience of this park from the inside. Even several generations removed from the original painting, these images evoke an almost tangible sense of the atmosphere of the special presence of the park. Paintings such as these lead us to an experience of space and of place, not as an object, but as perceptual awareness that is actively engaged. We are deep in an ocean of sensibility. It is important to remember that environmental experience is not exclusively or even primarily visual. Visual media have difficulty conveying the difference between objective space and space experienced from the inside. The experience of environment is multisensory, even synesthetic, and includes haptic, somatic, and olfactory perception. This difference between the objective and the experiential contextual space of Parc Monceau can be said of other urban forms, such as streets and buildings. Cities, of course, are far more complex and extensive environments than parks to comprehend and experience. Qualitatively different from parks, city plans do have their utility, but this comes at the cost of abstracting the living city and presenting it as an object, a skeleton, as in this 1900 pocket map of Paris. Or this more recent city map that looks like an anatomical drawing, kind of more like an anatomical drawing than a living place. An entirely different city is the one experienced by people, and this can be grasped in paintings such as Monet's Boulevard des Capucines. David Hockney's Place Fürstenberg. Maurice Utruyo's Paris Street, 1914. And perhaps more commonly in photographs, such as this recent photo of Rue Mouffetard. Buildings are often considered objects by architects as well as by pedestrians. I find this one phenomenal. But buildings can also be inviting, living human places, such as we find in the work of Alvar Aalto, the Finnish architect. In this example, a center inspired by a Finnish lake, or the Sinatsalo Town Hall. I once had the privilege of spending several nights in an apartment in this town hall, and it was living in a work of art. It was an amazing experience. These are all of the town hall. Or this house that Aalto designed. And his more famous Villa Maria. And in this more contemporary work, the Nieto Sobiano Contemporary Art Center, Cordoba, 1985. These are buildings to enter, buildings to be part of, buildings that invite the human presence. It is important to make the philosophical point that spatial perception and aesthetic engagement cannot be properly described as a subjective occurrence. It involves the active, dynamic, fully sensory body ensconced in a space and physical field of dynamic reciprocal forces. The examples I have been showing illustrate the fact that environmental experience is not wholly private or personal, and that even photography, a medium that involves a quasi-spectator, can show the kind of engaged social experience that is characteristic of urban life, as in the work of Henri Cartier-Bresson. I should have made some copies of his wonderful photographs in which the viewer of the photograph becomes a participant in the photograph by the way he composes it. I call this perceptual experience aesthetic engagement, and it occurs nowhere more emphatically than in the urban environment, where the effects of human activity are omnipresent and isolation from them impossible. Urban experience as sensibility is necessarily social. Indeed, it exemplifies the social cast of much environmental experience. Moreover, urban experience is inevitably political as well as aesthetic, and in many different ways, for it takes place within a political matrix and under the influence of a political order. Indeed, political decisions are primarily responsible for the character of urban environmental experience by establishing zoning regulations, passing traffic ordinances, determining the conditions and facilities for cultural life, and the like. The decisions that guide the complex operations urbanization requires have a profound influence on the urban experience. Experience understood as sensibility is inevitably political here. Concerns and ideas on the aesthetics of nature and urban environments are well developed and broadly discussed. What I have tried to do here is to clarify and redefine the idea of environment in a way that recognizes the contextual nature and includes humans and so cannot be objectified. Similarly, environmental forms must not be understood as objects of experience, but as constituents in an experiential aesthetic field. We may even consider the urban environment as the primary instance of the social character of environmental experience. The urban environment is the primary instance of the social character of environmental experience, and recognize that it directly reflects the consequences of political decisions. Enlightened and informed thinking in professional circles is widespread, What is lacking is its translation into social practice. And here the obstacles are political and economic. The character of our large-scale and complex urban environments cannot be left to narrow individual interests and personal preferences, as was the case in the early history of the city, nor can it be placed in the hands of a professional autocracy. As a social achievement, all contributions are essential and must be included, including those of users, officials, professional designers and planners, artists and philosophers, in creating a living environment. That's my conclusion. Thank you.
Bonjour, Yann Lafolie, je suis paysagiste. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, Arnold Berliant, d'être venu jusqu'à nous. Je pense que, en tant que concepteur de l'espace public, les réflexions d'Arnold Berliant sont absolument essentielles et trop peu connues encore. J'ai une question par rapport à ce que vous disiez à la fin, quand vous disiez que justement notre environnement de vie ne pouvait pas être laissé aux mains de quelques professionnels. Donc moi, dans ma pratique de mon métier, les paysagistes, les architectes, les urbanistes, souvent on nous confie des missions de maîtrise d'œuvre, et à part certaines pseudo-participations, les gens qui vivent les espaces qu'on conçoit ne sont pas invités à les concevoir avec nous. Et je voulais savoir, selon vous, quelles seraient les modalités, des pistes, des modalités politiques, institutionnelles, de gouvernance, pour définir des perspectives de faire la ville de manière pas seulement aux mains des professionnels. J'espère que ma question est claire. Merci.
Yes, I think that this is now has been for some decades a well-known practice to bring in the inhabitants and get their views. I happen to live just outside a small, beautiful New England village of historic interest, and the officials have decided to make the main street, which is the icon of the village, make it wider. Well, nobody wants this except a few officials, but they decided this, and we have to have a whole movement and a lawsuit in order to try to stop them. But that's a case in which the users, the inhabitants, have been ignored, and some autocratic decision making was instituted. I think that this is something that can be done in all such decisions. Many people are involved, many interests are involved, and they all have to be considered. Obviously, action has to be taken, but it should be enlightened action. That's the best I can say on this. Democracy is very messy, but it's still the best of the worst.
Oui, bonjour. Je travaille pour le Comité mondial des apprentissages tout au long de la vie, qui est une ONG qui travaille pour l'UNESCO sur ce sujet. Et on est en train de lancer une expérience de territoire apprenant en action, c'est-à-dire comment la ville ressentie ou le territoire ressenti peut être un apprentissage tout au long de la vie. Donc en partant sur des vrais territoires, et pas juste un travail de conception de l'éducation ou de l'apprentissage ou de la formation. Voilà, donc c'est un grand champ de travail, comme dirait notre ami également qui travaille sur la géopoétique. Et y a un parallèle aussi qui a été fait sur la question de l'air. J'ai bien aimé votre définition de l'air, parce que c'est non seulement une aire géographique, et aujourd'hui on en parle beaucoup avec les métropoles et toutes ces grandes échelles, mais c'est aussi l'air qu'on respire à travers le corps, dans toutes ses dimensions. Donc je trouve que l'air avec un S, voilà, ça pourrait aussi être quelque chose d'intéressant par rapport à cette dimension climat. Donc c'est juste la question, c'est est-ce que, voilà, cette expérience qu'on lance, on ne sait pas où on va, est-ce que vous pensez que, voilà, ça, est-ce que ça parle pour vous ? Merci.
I think the challenge is to try to discern the place from the inside, from the experience of the people living in it, and how they construct their sense of that as a place. I quoted the dancer Merce Cunningham, who said, "Wherever I'm facing is front. If I'm facing there, it's front. If I'm facing there, that's front." So I become the center of my space, and people are the center of their spaces. And I think giving that sense of appreciation for the primacy of human experience is the key.
Hello, thank you very much for your talk. I fully agree with what you said, so all I have is a comment. You mentioned when you were commenting on the paintings of Seurat and Monet that these artists and others as well are sort of painting the presence. They don't paint what is there, but they paint what it means to be there. And I think this is very convincing, and maybe we could even say that this is what art generally does. It reminds us of the presence. Whatever, if a novel tells a story, it doesn't tell a series of events. It tells what it means for those involved to be involved in their respective presence. So maybe art is an institution of a recollection of presence, of human presence in their very different forms of environment. However, there's another point. If we look at a work of art, now this photograph is, if this building is a work of art, we don't see the building. We see a maybe artistic photograph of this building. And so art, it inspires me, art works, it is a recollection of presence. But how does it do that? Because it presents its presence. So if it comes to art, this is different to the urban spaces or in the natural world. Here we are within a certain scene, and we are aware of it. We sense it with all our senses, with our bodily engagement. But the artwork presents itself. So it functions. It is a presentation of presence by way of presenting it to ourselves. So it's a double engagement in a way which it provokes to its beholders. Would that be an idea you would agree to?
Yes. I think that paintings are a kind of performance art because it requires the viewer to work with the painting and become directed by its demands. There's a figure in this, and that figure is very important because it's not just a blank objective space, it's a human space. And of course, we primarily experience buildings from the inside, although architects like to show them as objects. So it helps to recognize that in experience any art, one complements it, one contributes to it, and that contribution is essential.
Merci beaucoup. Thank you very much.
Bonjour, donc merci aussi pour cette occasion de réfléchir ensemble sur des sujets qui nous préoccupent tous. Donc personnellement, je vais vous présenter, je vais vous faire une présentation sur la question de la mise à l'épreuve des politiques publiques par une série d'initiatives plus récentes, mise à l'épreuve ou pas. on va le voir, on va cheminer ensemble pour essayer de voir effectivement comment cette critique urbaine apparaît. Alors, ce qui est important de dire, c'est que dans le champ urbain, d'une manière large, dans le champ du politique, des professionnels, mais aussi de la société civile, il y a un consensus qui apparaît sur une forme de critique urbaine. Alors, on critique ces formes des esthétiques, notamment passées avec les grands ensembles ou encore les lotissements pavillonnaires, et les possibilités d'appropriation de ces différents espaces aménagés. Donc, les discours vont plutôt dans le sens de formes urbaines à même d'être vécues. Mais comment les questions que je voudrais qu'on se pose cet après-midi ensemble, c'est effectivement comment ces critiques urbaines se manifestent dans l'espace urbain, par les politiques publiques, mais aussi par les autres initiatives qui peuvent s'y déployer, et quelle forme urbaine cela fait apparaître, voire esthétique. Est-ce que ça suscite des approches pour mieux saisir le vécu, les représentations imaginaires ou même les ressentis des lieux? Et donc, effectivement, de voir comment cette question de forme vécue, de forme à même d'être vécue, peut irriguer les politiques publiques ou pas. Pour cela, je vais m'appuyer sur la mise en perspective de plusieurs recherches qui sont en cours. Donc deux sur le paysage, urbain, notamment dans les quartiers périphériques. Une recherche qui avait été menée dans le cadre du programme Paysage et développement durable 2 et son prolongement qui conduit à une expérimentation qui s'appelle FACT. Et également une recherche sur la qualité urbaine et la qualité de vie, notamment dans les écoquartiers. Donc avec toujours une mise en perspective de la conception de ces notions par les politiques publiques et par les usagers, habitants, citadins d'une manière générale. Alors, de ces recherches, il apparaît que les formes urbaines sont vécues s'il y a un sentiment de coprésence, c'est-à-dire le sentiment, la visibilité des autres, le sentiment que on appartient à une humanité qui est visible. Il y a bien entendu les possibilités d'appropriation, d'usage, les représentations sociales et sentiments d'appartenance, mais aussi la perception de l'évolution des lieux, c'est-à-dire des temporalités qui s'exercent, que ce soit du passé ou au devenir, et également la question du sentiment de sécurité qui, évidemment, irrigue la possibilité de vivre les lieux, et notamment les formes qui sont déployées. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, pour que les formes urbaines soient vécues, il y a nécessité de la présence des hommes, du sentiment d'humanité, de faire l'expérience à la fois des lieux et de la société humaine. Il semble nécessaire d'avoir des espaces suffisamment vides et sûrs pour pouvoir s'y projeter, éprouver éventuellement les lieux et les imaginer. Et puis, évidemment, des signes temporels de l'inscription spatiale qui se perpétuent, donc en lien avec, effectivement, la présence humaine ou l'environnement humain. L'autre point qui est important, c'est qu'effectivement, on voit apparaître que la question du sentiment esthétique est importante et que l'esthétique traduit souvent, pour les professionnels, une forme, alors que pour les citadins, c'est son expérience sensible, culturelle, spatiale, donc le sentiment esthétique qui est important. Donc effectivement, on ne peut pas réduire la notion d'esthétique à une forme ou à une composition urbaine, mais bien dans sa double dimension de formes urbaines qui sont éprouvées à travers le sentiment esthétique. De la même manière, on voit apparaître dans les formes urbaines vécues la question du ressenti qui est importante, donc que ce soit à travers les sensations, les sentiments et émotions, donc le senti, le ressenti et bien entendu les interprétations symboliques, imaginaires, voire poétiques. Donc le sensible, tout cela crée un monde sensible, un système d'affect, c'est-à-dire d'aptitude à éprouver. Donc, ce qui nous amène à dire qu'il y a une nécessité aujourd'hui, si on regarde effectivement le vécu des formes urbaines et des lieux, de les réconcilier, de réconcilier les formes produites avec leur vécu et leurs sentiments esthétiques et ressentis. Alors, comment ces critiques urbaines se manifestent aujourd'hui dans l'espace urbain? Alors, si on regarde du côté des politiques publiques, elles affichent toutes, en général, la volonté de formes urbaines plus respectueuses du vécu des citadins. Donc, elles veulent toutes, elles s'affichent souvent dans les discours qu'on a pu analyser, la volonté de faire autrement, et notamment à travers le spectre de la notion de qualité pour une ville plus attractive, donc avec une qualité urbaine, paysagère et architecturale, sans nécessairement évidemment définir de quoi on parle, ou encore de qualité de vie, c'est-à-dire d'une ville qui soit vécue, voire désirable, aimable, attractive pour certaines catégories de population, comme tout le mouvement sur les classes créatives. Donc effectivement, elle place cet enjeu effectivement de la qualité pour réconcilier la ville formelle et la ville vécue. Mais finalement, on voit très peu de traductions opérationnelles de ces discours, donc on reste effectivement à l'état de discours. Alors, cette critique des formes urbaines se pose aussi parmi les professionnels, donc qui critiquent les aménagements fonctionnels. Par exemple, Nicolas Soulier, avec son livre « Reconquérir les rues », a eu un grand succès dans le champ professionnel. Donc la critique est aisée, et notamment pour plus d'appropriation, plus de vécu. Et en même temps, finalement, les pratiques, là aussi, évoluent assez peu. Parallèlement, on voit apparaître aussi d'autres formes de pratiques professionnelles qui sont plus alternatives, donc qui se mettent en dehors des projets urbains de la commande publique, on va dire, tels que le tactical urbanism, consiste en certaines tactiques urbaines, donc en référence de Michel de Sorteau, mais je ne sais pas si c'est la traduction française qui a amené à cette référence, mais c'est un mot qui a été notamment utilisé par Mike Lindon pour décrire effectivement les aménagements temporaires de Times Square, donc avec effectivement une piétonnisation par un marquage au sol et l'installation de mobilier urbain très, très léger. Donc on assiste finalement à une diversification de formes d'engagement urbain en parallèle des politiques publiques qui finalement changent assez peu leur position, enfin leur mode de faire, et notamment à travers le tactical urbanism qui propose plutôt en parallèle de ces projets urbains des micro-interventions souvent temporaires, donc très centrées sur les usages des espaces de proximité, sur des modes de faire avec les habitants et avec des techniques low-tech. Mais finalement, elles se mettent à côté des politiques publiques. De la même manière, on voit apparaître un certain nombre d'initiatives citoyennes, spontanées, donc dans la proximité, donc à travers les jardins partagés par exemple, ou des formes d'activisme telles que les Green Guerrilleras, et donc beaucoup autour de la nature. Donc là, effectivement, c'est très clairement un discours, enfin une manière de se réapproprier l'espace de manière à avoir plus de solidarité et plus de nature, mais sans, là aussi, dans des espaces très circonscrits à côté des politiques publiques. Enfin, on a des démarches artistiques qui peuvent irriguer aussi la fabrique urbaine, telle que Trans 305 par Stéphane Chanclan à Ivry, et donc qui va là aussi proposer une intervention artistique dans le temps du chantier, en faisant des œuvres avec les matériaux et en proposant des nouvelles formes urbaines et puis l'implication des habitants. Donc finalement, à part, donc on a une diversification des engagements urbains alternatifs qui pourraient entrer en débat avec les politiques publiques, mais qui finalement ne rentrent assez peu en débat dans la mesure où elle correspond aux ambitions que les politiques publiques prônent elles-mêmes. Donc finalement, ça ne vient pas remettre en cause les discours dominants et les politiques urbaines elles-mêmes. Donc on a effectivement une coprésence de différents types d'engagements urbains, de différents types de production urbaine, mais qui finalement ne crée pas de débat et de questionnement sur la fabrication de la ville elle-même et sur ses formes urbaines et son vécu. Donc on est effectivement dans des remises en cause qui vont dans le même sens, même si finalement, quand on regarde les habitants, les artistes ou le tactical urbanism, par exemple, on voit qu'effectivement, on est plutôt sur des micro-interventions, sur un urbanisme plus progressif, sur une critique des approches top-down. Mais effectivement, ces questions-là ne sont pas reprises dans les discours des politiques publiques, ou alors elles sont adaptées. Par exemple, sur l'urbanisme plus progressif, on va parler de évolutivité des projets urbains, ou sur les approches top-down, évidemment, on va répondre sur la participation. Donc on a effectivement une porosité et une mise en regard entre des discours qui visent tous un même objectif, alors qu'ils entrent en tension et que souvent les points de départ étaient des critiques des projets urbains qui étaient menés. Donc on voit qu'on a une valorisation des espaces collectifs, de la nature et des paysages urbains. Donc on est bien sur la question des formes et esthétiques, sur l'implication de la population, la convivialité et l'expérience des lieux. Donc on pose bien la question du vécu et du ressenti des lieux. La deuxième question, donc est-ce que ces mouvements créent de nouvelles formes urbaines et de nouvelles esthétiques ? Alors, de fait, on a une multiplication des formes urbaines en présence, avec des formes bricolées, low-tech, voire low-cost avec le tactical urbanism, dont vous pouvez voir quelques exemples, des formes plus vernaculaires, de mise en nature, de jardinage portées par les citoyens, mais finalement, elles ne créent pas vraiment de sentiment esthétique. On est plus sur l'usage ou sur le faire ensemble que sur l'expérience sensible qui pourrait en être faite. En tout cas, ce n'est pas forcément la recherche première. Et la question du sentiment esthétique, elle n'est pas finalement qu'assez peu posée. Par contre, on a effectivement l'introduction des projets artistiques dans la ville, dans l'espace public, qui effectivement peuvent symboliser l'espace autrement. Mais souvent, elles interviennent, comme je le disais tout à l'heure, à côté, en support et rarement dans le projet urbain lui-même. Et quand on regarde les formes urbaines des projets d'écoquartiers, par exemple, on voit qu'on a quand même une forme d'homogénéisation des formes urbaines. Et donc, toutes ces formes qui se déploient parallèlement, plus low-tech, sont... bricolées sont rarement reprises ou en tout cas débattues dans la conception des écoquartiers. Et quand on voit, alors certaines initiatives peuvent être prises, si on reprend l'initiative de Parking Days qui consiste à laisser la possibilité aux résidents d'aménager un emplacement de parking, ce principe a été repris par la ville de San Francisco où le projet a été d'ailleurs lancé, à part la mobilisation des places de parking pour des aménagements de terrasses. Mais on voit qu'on retrouve les formes urbaines qu'on peut retrouver dans les nouveaux quartiers aménagés actuellement. Alors, est-ce que effectivement toutes ces critiques urbaines et ces engagements urbains qui se déploient questionnent le vécu, les représentations et imaginaires, voire le ressenti des lieux. Alors là aussi, on se rend compte que la réponse pour saisir le vécu et le ressenti des lieux passe souvent par l'option, les démarches participatives, donc du côté des politiques publiques, que ce soit à travers la démocratie participative, la concertation formelle du droit de l'urbanisme, la concertation de projets, mais souvent elle est limitée à de la communication ou consultation ou des besoins fonctionnels, mais rarement sur, effectivement, la question du vécu et du ressenti des lieux. De la même manière, dans le tactical urbanism, on voit effectivement des mouvements qui proposent d'impliquer, de faire avec les habitants, mais qui vont proposer des moments de convivialité festifs, des expériences vécues, mais pas nécessairement une connaissance du vécu ou se soucier effectivement du ressenti de l'expérience sensible des lieux. Et de plus, ces mouvements tendent à être sur des implications extrêmement ponctuelles, sur un temps événementiel ou un temps de chantier, donc souvent limité à des micro-projets. Et on peut constater aussi une tendance à mobiliser plus que les habitants des milieux de jeunes urbains qui sont eux-mêmes impliqués dans ces démarches. Alors, donc cette question, donc effectivement, la participation n'est peut-être pas le seul moyen de saisir le vécu et le ressenti des lieux. Donc les artistes, à nouveau, peuvent, en tout cas certains, mobiliser le ressenti et susciter des expériences sensibles, comme par exemple Anish Kapoor à Chicago ou Malte Martin dans le 20e arrondissement. Donc se pose effectivement la question comment combiner ces approches participatives pour qu'elles puissent être plus sensibles, mais comment surtout développer une nouvelle connaissance du vécu et du ressenti urbain. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'initiatives dans le champ de la recherche et dans le champ artistique qui s'expérimentent. Donc, on est d'ailleurs là pour en témoigner. Mais effectivement, elles sont... c'est comment elles vont infuser et percuter les politiques publiques qui sont bien installées effectivement à travers ce filtre du discours dans des modes d'action qui sont très ancrés. Donc tout ça pour dire quels enjeux pour les politiques publiques. Pour conclure. Donc on a des critiques urbaines qui se manifestent par des engagements in situ, mais ces critiques, finalement, elles ont peu d'impact sur les politiques publiques. Elles ne remettent pas en cause les conceptions de l'action et elles se déploient finalement dans les interstices des projets ou alors sont récupérées, lissées par les politiques urbaines. Donc, dans ce contexte, pour avoir des formes urbaine plus respectueuse du vécu, du sentiment esthétique et du ressenti des hommes, il y a vraiment un enjeu de connaissance, notamment sur les mises en tension que ces différentes formes urbaines qui émergent font apparaître, sur qu'est-ce que le sentiment esthétique dans le milieu urbain, comment déployer des modes de connaissance du vécu, du ressenti des lieux. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu pour effectivement revenir vers des conceptions urbaines plus sensibles, et puis comment impliquer les citadins sur d'autres registres que fonctionnels ou de l'expérience festive ou conviviale. Donc il y a vraiment un enjeu à dépasser les scissions originelles, donc bouger les lignes, comme le disait Nathalie Blanc ce matin, entre nature, culture, matériel, immatériel, objectif, subjectif, les temporalités passées, présents et futures, et donc d'engager effectivement des recherches théoriques et méthodologiques pour mieux appréhender ce rapport au ce monde sensible qui finalement reste une inconnue, qui reste difficilement palpable, et encore moins pour les concepteurs et les politiques publiques, de manière à pouvoir créer des lieux qui soient à même de réconcilier la forme et son vécu, la forme et son appréhension sensible et esthétique, et la forme et ses différentes temporalités, c'est-à-dire l'évolution dans un temps humain. Je vous remercie.
Bonjour. Alors, je me présente, je suis Fidelica Gatto, je suis architecte urbaniste. Je vais vous présenter aujourd'hui une partie des résultats de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en décembre 2015 à l'intérieur du laboratoire architecture-anthropologie qui fait partie d'une grande UMR qui s'appelle La Vue. Thèse qui s'intitulait « Contre-pouvoir urbain pour une critique des dispositifs participatifs dans le nord-est de la métropole parisienne ». Bon, actuellement, je suis doctorante à Marseille, mais sur tout un autre sujet. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de... je vais rester, c'est très bien, je vais rester dans le même champ, avec les mêmes constats, en fait, et donc interroger quelles sont les formes liées à l'environnement qui sont issues de tous ces mouvements critiques et donc participatifs, surtout en lien avec l'aménagement, et donc quels sont les résultats en termes de traduction politique et technique de ces moments critiques. Le pari que j'ai fait dans ma thèse, c'était justement de regarder ces différents mouvements comme un seul réseau. Donc, je me suis intéressée à la fois à des associations qui ont des jardins partagés, des squads d'artistes, des collectifs d'architectes qui portent des actions de tactical urbanism. Et des associations de quartiers qui mènent des actions de concertation et de participation sur les projets d'aménagement. Tout ça avec une approche anthropologique, donc je vais donner un autre point de vue, celui d'une analyse longue de terrain où j'ai pu observer notamment ce terrain avec une approche situationnelle. Donc je me suis vraiment intéressée aux situations de négociation entre ces mouvements critiques et l'institution lors de différents types de négociations liées aux transformations de territoire qui était notamment le nord-est parisien, donc l'un des territoires qui sont en train de vivre les majeures mutations dans la métropole parisienne. Concernant les constats, je vais un peu répéter, donc je vais aller un peu plus vite. Donc ça c'est le territoire auquel je me suis intéressée. Donc on va Paris au sud, et les périmètres verts, c'est les projets d'aménagement en cours. Donc on peut voir que c'est un territoire où il y a même plusieurs projets qui se superposent. C'est une transformation assez incroyable. Et les points rouges, ce sont les associations que j'ai pu repérer et que j'ai rencontrées, qui font partie de mon travail ethnographique. Donc j'ai essayé de comprendre, vraiment d'appréhender un territoire comme l'union d'un réseau à la fois de contestation, de critique et de transformation, et de comprendre quelles étaient ces relations. Le nouage de mots que vous voyez, c'est tiré par un petit questionnaire que j'ai proposé aux associations. Et donc, comme dans tous les nuages de mots, les mots plus grands, ce sont les mots qui ont le plus de récurrence dans les textes, dans les réponses. Donc on voit déjà apparaître des choses qu'on a vues, donc la question de l'appropriation, de la participation, la ville durable, donc qui fait consensus, les questions de qualité de vie, de convivialité, de mixité, etc. Donc les deux constats principaux de mon travail, ce sont d'un côté l'importance de plus en plus grande de ces mouvements de contestation, notamment dans les derniers 10 ans. mouvements qui sont liés à la réappropriation de l'espace urbain, avec une sensibilité qu'on pourrait définir post-globale ou anti-néolibéraliste, et qui se traduit dans des espaces et des pratiques de mise en débat des projets urbains, et dans des formes, donc comme j'ai dit, de jardins partagés, de potagers, mais aussi d'événements comme la célébration des saisons, des événements de végétalisation, etc. L'hypothèse qui accompagne ce constat d'une nouvelle attention à ces types de mouvements, c'est le constat d'une évolution un peu particulière. Parce que tous ces mouvements voient leur origine dans les années 70, où ils, dans plusieurs pays, entre l'Europe et les États-Unis, et naissent comme des formes de contestation très fortes. Et ils ont vécu, entre les années 80 et 90, un processus d'institutionnalisation, et donc de technicisation aussi, et de spécialisation et professionnalisation dans l'aménagement urbain. Ceci est dû aussi à un intérêt de plus en plus fort des politiques publiques, notamment avec le développement durable, pour ces types d'initiatives. Et c'est notamment avec la crise économique en 2008 que ces initiatives sont de plus en plus médiatisées comme des réponses alternatives et résilientes au développement urbain. En même temps, ce que j'ai pu observer dans mon terrain, c'est que justement, on a cette impression d'un processus qui est inachevé, où ces pratiques finalement n'aboutissent pas dans des actions concrètes dans les projets urbains. Et ma lecture de ce sentiment d'inachèvement, c'est lié à l'idée qu'en fait ce processus d'institutionnalisation a changé de forme, c'est-à-dire on est passé d'une institutionnalisation politique, d'une reconnaissance qui devait être politique, à une reconnaissance qui est plutôt médiatique. Et donc le rôle de ces actions, réside dans l'imaginaire qu'ils portent et qui accompagne les projets d'aménagement. Je vais y revenir. Tout ça dans un contexte. Donc ça, c'est une carte des jardins partagés, squats d'artistes et collectifs d'architectes dans la métropole parisienne. On voit que c'est la concentration surtout dans l'Est et le Nord, qui sont aussi les lieux où se concentrent la plupart des projets urbains qui sont liés aussi, bien évidemment, à la désindustrialisation, comme on peut le voir dans cette carte. Donc, juste pour la petite parenthèse, on est en parallèle, on est dans un contexte où l'aménagement urbain aussi change ses manières de faire depuis les années 80. On a de plus en plus de formes de privatisation et de réduction d'échelle des projets urbains, c'est-à-dire que si d'un côté on a l'impression qu'il y a les grandes métropoles qui englobent les autres villes, de l'autre côté l'action urbaine elle-même, elle se fait de plus en plus à travers les projets urbains qui sont une forme de délégation vers le privé et qui sont aussi productrices d'exceptions. C'est-à-dire que le projet urbain en soi, sa logique principale, c'est de créer une exception par rapport à la planification classique, donc aux plans locaux d'urbanisme, les SCOT, etc. Ça, c'est quelque chose qui dialogue très bien avec ces mouvements critiques, parce que justement, tout est fait sur la négociation qui n'est justement pas liée à une volonté de créer des situations d'institutionnalisation politique, mais plutôt de, au fur et à mesure, créer des dispositifs de médiatisation. Je vais passer sur ça. C'est trop. pour donner une idée un peu plus sensible de, au-delà de ces formes qu'on a pu voir de ces mouvements et pour expliquer un peu mieux la position que ces actions d'appropriation ont par rapport au projet urbain, je vous propose de passer très rapidement les quatre types de figures de militants que j'ai pu repérer dans mon terrain. Ce sont des figures pas au sens de typologie qui serait fixe, mais c'est plutôt pour avoir justement pour sortir d'une idée d'une analyse un peu classique du militant par rapport à la classe sociale, etc., mais pour avoir une idée de quelles sont les formes de justification qui sont mises en place par ces acteurs dans l'explication de leur rôle par rapport à l'aménagement urbain. Donc la première figure, c'est la figure qu'on pourrait dire de facilement imaginer comme le militant plutôt âgé qui s'engage dans les aménagements de son quartier, qui donc rentre dans une association de participation et qui se raconte comme quelqu'un qui était très intéressé aux droits et aux mobilisations dans les années 68 et qu'aujourd'hui s'intéresse plus au territoire. Et donc là, par exemple, il y a une petite citation que je ne vais pas vous lire, mais qui explique le fait que pour ces figures, l'important, c'est de contribuer au débat public, de nourrir les décisions des politiques. Et donc, il y a une croyance dans l'aménagement et aussi une prise en charge, une responsabilisation par rapport à ces décisions. Et pour ces figures-là, notamment, la nature, c'est une manière d'échapper aux erreurs du passé. Donc la nature est mise en avant comme quelque chose qui peut permettre d'agir autrement, justement, par rapport au passé. La deuxième figure, c'est celle du jeune artiste engagé dans un squat, par exemple, parisien. La citation qui est là montre bien comment c'est le fait de s'engager dans ces... Alors, faut que je revienne en arrière. Je n'ai pas dit que la relation principale entre ces actions et les institutions, c'est notamment des formes de contractualisation, c'est-à-dire que toutes ces relations entre les actions d'appropriation citoyenne, etc., et l'aménagement officiel, ce sont des situations de négociation qui peuvent être à la fois des réunions publiques, mais aussi des conventions d'occupation. C'est-à-dire les squats d'artistes, notamment, ne sont pas des squats illégaux. Ce sont désormais à Paris des lieux qui ont des conventions avec l'institution. Et ces conventions sont liées aux temporalités de l'aménagement urbain. Donc il y a un accord de libérer les lieux au moment où il y aura un chantier. Il y a aussi des subventions, etc. Donc, par exemple, là, la personne, elle est en train d'expliquer pourquoi son squat n'est pas un squat illégal, mais c'est un squat plutôt qui a fait une négociation avec la mairie. Pour ce type de figure-là, il s'agit d'avoir un engagement procédural, un refus du conflit ouvert, donc comme dans la citation, et qui est lié surtout à un pragmatisme. Et la nature, dans ce cas-là, c'est une valorisation de la capacité de ces actions à s'attacher aux lieux, donc à montrer leur capacité de s'enraciner dans les lieux vis-à-vis de l'institution. Donc c'est une forme de garantie. La troisième figure, c'est plutôt lié au jardin partagé. Et là, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il s'agit de formes de justification pour ces figures qui sont surtout liées à une idée d'engagement plus domestique, à une espèce de repli liée à surtout à une désillusion par rapport aux mobilisations. Aux mobilisations politiques, disons, classiques, où ces actions de réappropriation d'espace donnent la possibilité, comme dit la personne citée, d'aller au-delà des frontières sociales, de faire ensemble, mais en même temps de s'enfermer dans une espèce de petite utopie bien fermé du reste de la ville. Et donc, dans ce cas-là, la nature, c'est surtout un refuge, un lieu d'expérimentation in vitro. Et la dernière forme de justification, la dernière figure, c'est lié à cette tactical urbanism, au collectif d'architectes qui s'engagent dans des formes d'occupation des lieux aussi avec des aménagements temporaires, etc. Là, la personne explique le pourquoi il s'est engagé dans son quartier, parce qu'il y a toujours un double positionnement de ces acteurs entre leur rôle professionnel, puisqu'il s'agit souvent de professionnels, et leur rôle d'habitant. Et dans ces cas-là, on a en général un type d'engagement qui est plutôt opérationnel, donc qui est lié au faire, à la performance, à la production du lien social, donc à l'architecte qui se propose comme producteur de sociabilité plutôt que d'espace, et à la capacité aussi de produire des images, des images différentes de la ville. Et la nature, dans ces cas-là, c'est plutôt un véhicule d'animation sociale. Donc pour on voit des images qu'on a déjà vues de même type d'action. Ça, c'est un photomontage qui résume un peu les différentes typologies d'actions que j'ai pu observer. Et pour moi, il montre bien comment il existe. Pour moi, au contraire, une esthétique bien précise de ces lieux qui est proposée, et qui est une esthétique qui est liée au faire et qui est liée à cette idée de spontanéité et de désordre, mais c'est en réalité une esthétique aussi très homogène, très codifiée, qui peut être très bien reproduite aussi par les institutions, enfin par d'autres types d'actions plus institutionnelles. Excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil. Cette ère précaire, elle montre comment ces actions se concentrent justement sur une esthétisation de l'espace. Je vais terminer. Dans les figures qu'on a vues, ce qu'on voit dans les formes d'engagement, c'est surtout un abandon des aspirations d'émancipation collective et sociale pour justement assumer une responsabilisation, donc un positionnement de citadin très néolibéral qui assume le droit moral de devoir produire sa propre ville. Je vais m'arrêter là et je vais peut-être...
Donc moi, je trouve que dans votre présentation, il y a une certaine continuité, bien évidemment, et qui est une constante à chaque fois. Vous parlez des situations concrètes dans lesquelles il y a des soutenances de mémoire, de diplômes, de jeunes architectes, de jeunes artistes, urbanistes, etc., engagés avec beaucoup d'enthousiasme dans ces entreprises-là. Il y a toujours quelqu'un dans le jury pour leur dire « mais oui, mais ça, c'est du néolibéral, ça ne sert à rien, c'est du truc ». Donc, moi, je me demande si cet effet de lissage, qu'on a un peu désespérant, parce que d'un côté, vous nous dites que les politiques urbaines de la ville ne servent à rien, ça, on en était tous persuadés. Mais du coup, vous nous dites aussi que toutes les tentatives, qu'elles soient squat d'artistes, jardin partagé, guérilla gardienne, collectif d'architectes, des modalités très différentes. Donc, moi, méthodologiquement, de mettre tout dans le même sac me paraît quand même poser problème, ne servent à rien, voire elles sont la manifestation d'une politique néolibérale d'appropriation de la ville. Je cite le propos de mademoiselle Gattin. Donc, je me demande si cet effet désespérant dans lequel les politiques de la ville ne marchent pas, et tout ce qu'on fait contre elles ne marche pas, parce qu'on considère d'emblée que le micropolitique est nul et non avenu, et qu'on considère que les œuvres dans l'espace public subventionnées à des milliards d'euros et les petites entreprises de jardins partagés, etc., des petits collectifs sont au même niveau, n'est pas aussi un effet de langage et de mode de présentation. Par exemple, en tant que philosophe, moi je m'interroge sur des termes que j'ai vus revenir systématiquement dans le PowerPoint de Méline, mais je les vois revenir dans toutes sortes de PowerPoint dans ce genre de débat, qui sont ressenti et sentiment esthétique. Le terme ressenti, à ma connaissance, il a dû apparaître depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, ne fait pas partie du vocabulaire philosophique et je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est de l'émotion, c'est du vécu individuel, c'est du vécu collectif. J'aimerais bien avoir une définition de ressenti parce que personne ne me l'a jamais donnée. Pour ne pas parler de résilience, lien social, conviviabilité, ville durable, qui sont des termes qui viennent d'études sociologiques, anthropologiques, philosophiques sérieuses, qui sont réduites à l'état de bouillie. Deux, sentiment esthétique. Vous venez de dire que le sentiment esthétique n'apparaît pas dans ces projets qui sont bricolés. Or, aesthésiste, pour moi, est le sensible, l'expérience du sensible. Ce n'est pas la beauté. Et c'est le sentiment du sensible en tant qu'il est partagé avec d'autres. Donc, le partage du sensible de Rancière, je pense que c'est une lecture indispensable dans toutes les écoles d'architecture, urbanisme et paysage. Donc, dire que les jeunes gens qui produisent les jardins ou aménagent les pieds d'arbres, etc., ne produisent pas de sentiments esthétiques parce qu'ils ne produisent pas, je ne sais pas, peut-être des œuvres qui pourraient être gardées dans des musées ou présentées au Centre Pompidou, me paraît une... Donc, comme hier, les grilles, là, je pense aussi que quand on fait ce genre d'analyse, il faut faire extrêmement attention au langage qu'on utilise. Il y a une écologie du langage qui est peut-être à ce stade plus importante que l'écologie environnementale ou psychique ou sociale. En est la prémisse indispensable. Ressenti, résilience, sentiment esthétique, utilisés comme ça, ce sont des termes dont je ne connais pas la signification. Donc j'aimerais bien que quelqu'un les définisse avant de les utiliser dans des PowerPoint. Merci.
Permettre, je pense que pour le deuxième commentaire, c'était pas il n'était pas question de dire qu'il n'y a pas de production de sentiments esthétiques par ces collectifs, mais je vais vous laisser répondre peut-être avant de passer au suivant.
Oui, les suivants. Je peux commencer. Oui. Alors, c'est les constats que je présente, ils sont basés sur 3 ans de terrain. Donc, mettre toutes ces initiatives dans le même sac, c'est pas un choix a priori, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur le terrain. Donc, ces actions sont liées par un même langage, par un même répertoire d'actions, elles sont même un lien entre elles. Donc, pour moi, c'est tout à fait pertinent de mettre tout ça dans le même sac. Et après, moi, je pense que c'est pas désespérant d'exercer un esprit critique par rapport à ce qui se fait, notamment dans le contexte où ces actions sont de plus en plus médiatisées, sont de plus en plus mises en avant par les politiques, et qu'elles mettent en écart d'autres types d'actions qui pourraient être plus intéressantes et plus porteuses d'émancipation pour les citoyens.
Porteuse d'émancipation. Si de toute façon les guérilla gardening et les jardins
alors,
partagés
moi je...
par la mairie, c'est la même chose.
C'est pas la même chose. Moi je parle de d'actions qui s'insèrent dans les politiques. Un jardin partagé, ce n'est pas une action spontanée. Aujourd'hui, les jardins. La guérilla gardening aussi, c'est un réseau aujourd'hui, enfin au moins à Paris dans le contexte parisien. C'est un réseau autogéré, mais les personnes qui font partie de ce réseau, à leur tour, ils appartiennent à des lieux qui sont données par la mairie, qui sont financées par la mairie, qui signent des chartes qui les obligent à ne pas protester si le terrain doit être abandonné du moment où il faut construire un édifice. Et donc, oui, tout ça est lié, aux politiques, Alors moi je fais pas partie de mouvements sociaux, donc je sais pas. Mon intérêt c'est un intérêt d'urbaniste. Donc pour moi, l'alternative à ça, c'est une connaissance profonde anthropologique des territoires. Qui n'est pas, enfin, du point de vue de l'urbaniste, il ne s'agit pas de faire participer les habitants, mais plutôt d'aller observer les pratiques et de connaître les espaces pour construire une ville différente. Mais bon, je vais m'arrêter parce que...
Donc oui, je vais quand même réagir aussi, parce que je pense qu'il y a une certaine confusion dans l'interprétation que Manola Antonioli fait du propos. Ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans les critiques urbaines qui sont en présence aujourd'hui et qui effectivement sont en lien avec les politiques publiques, donc elles ne sont pas dans le même sac, mais c'est cette relation avec les politiques publiques, leur critique ne percute pas les modes de faire des politiques publiques. C'est-à-dire que ce soit avec des techniques bricolées, low-tech, du tactical urbanism par exemple, dans les écoquartiers, on va continuer à construire des bâtiments BBC et compagnie, mais sans effectivement, donc il n'y a pas de mise en relation de ces critiques urbaines qui sont en coprésence, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Et donc qui, effectivement, ne suscite pas de tensions, de conflits, de réflexions pour, effectivement, se poser la question pourquoi ces approches se développent aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles disent des projets urbains qui sont conçus aujourd'hui, et que, finalement, elles sont, à travers, donc, effectivement, des formes de contractualisation, mais aussi des places qui sont accordées dans les projets urbains pour ces initiatives, elles sont finalement instrumentalisées et digérées par les politiques publiques. Donc effectivement, ce que je voulais souligner, c'est que dans ces différentes critiques urbaines qui sont en présence, en fait, aucune ne vient interroger finalement fondamentalement les modes de faire de la fabrique urbaine aujourd'hui. Et évidemment, sur les définitions du sentir, du ressenti, je m'appuie notamment sur Denis Martouzet, sur évidemment un certain nombre d'auteurs qui ont déjà exploré ces questions-là, mais on aura l'occasion du ressenti, donc c'est effectivement... Donc effectivement, on peut distinguer le sentir qui est lié plus à la sensation du ressenti qui traduit effectivement l'émotion et enfin les sentiments et leur interprétation, pour faire simple. Voilà. Mais on peut y revenir parce qu'effectivement, il y a beaucoup de contradictions sur...
On dit qu'il n'y a pas de plaisir et c'est partagé dans les actions...
Alors, j'ai pas dit ça. J'ai absolument pas dit ça. J'ai dit qu'effectivement... ça ne suscite pas forcément de sentiments esthétiques et à nouveau de critiques sur qu'est-ce qu'était le sentiment esthétique. Donc effectivement, le sentiment esthétique, et je partage complètement l'importance d'aller vers des expériences du partage du sensible, et Jacques Rancière est une référence pour moi également. Donc je pense qu'il y a une mésinterprétation de mes propos sur ce sujet-là. On pourra en reparler.
C'est un peu dans la continuité justement de... Vous dites qu'on n'a pas de recherche esthétique, pas trop de nouvelles formes. On va prendre l'exemple du guerilla gardening auquel je participe. En fait, non, au contraire, il y a énormément de nouvelles formes et sous plusieurs aspects, c'est qu'elles se multiplient en tant qu'objet, elles se transforment et ensuite notre perception change. Tout simplement, on passe d'un hygiénisme sur les plantes sauvages à les accepter d'un point de vue subjectif, et en plus, elle se multiplie. C'est un premier fait. Ensuite, on a tout simplement la dispersion très concrète des légumes anciens, qui est passée par une réappropriation des semences, qui était aussi une pratique délétère. Bien sûr, ça s'institutionnalise, il y a des luttes dans tous les sens, mais ça, c'est toute innovation qui fonctionne avec des first movers, et ensuite, les autres suivent. Et ensuite, les formes, on les questionne directement comme ça, mais aussi on peut les questionner du point de vue scientifique. Quand on ouvre un sol en guérilla gardening, on se pose des questions. Comment j'ouvre mon sol? Parce que qu'est-ce qui va pousser? Du coup, quelle perception de la nature j'ai? Donc dire que en fait c'est absent de la réflexion, l'esthétique et la pensée de la forme, je pense que c'est mauvais. Surtout qu'il y a des gens du guerrier gardening parmi nous. Et qui en plus ont posé des thèmes en esthétique environnementale qui sont précurseurs et qui peuvent ensuite vous interroger vous-même. Donc je trouve que c'est un peu vite dit et qu'il faudrait essayer, puis essayer de sentir aussi qu'est-ce que c'est le guerrier gardening, parce que ça commence quand on arrive avec une pioche dans le métro, c'est interdit. Hein. Et là, ça commence en fait à questionnement du sensible dans l'espace public, les réactions des gens en face de nous quand on a une scie dans la main. Il y a des nouvelles formes, rien que des nouveaux outils dans la ville, des nouveaux vêtements. Et je pense qu'aussi, au niveau environnemental, c'est pas seulement ça. C'est aussi, on peut questionner le vêtement, on peut questionner tout le mouvement hip-hop qui a apporté une nouvelle danse, une nouvelle musique avec le beatbox, le rap, tout ça. Toute cette culture de rue, en fait, c'est des formes, quoi. Et puis, c'est surtout... Ouais, ça bouge, quoi. Pour rejoindre le premier propos, vous parlez plus de formes abstraites, qui sont des formes... Les formes du fer, les formes de... Ouais, je ne sais pas trop lesquelles, justement, mais c'est des formes qui ne sont pas des formes que je ressens. Voilà. Donc c'est pour savoir comment vous dites, comment vous définissez la forme, en fait, plus simplement, et plus simplement la recherche esthétique, quand vous dites qu'il n'y en a pas beaucoup.
Je vais répéter ce que je disais tout à l'heure. Donc, il me semble avoir insisté sur le fait qu'il y avait une diversification des formes urbaines qui étaient proposées. Notamment la mise en nature et la nature sauvage avaient été mentionnées. Donc effectivement, ça crée des nouvelles formes urbaines. Mais la question que je voulais souligner, c'était effectivement la forme existe, mais en quoi ça suscite du sentiment esthétique et en quoi on se questionne sur la réception de la proposition de ces nouvelles formes urbaines et alors effectivement, il y a la question de leur instrumentalisation, parce qu'effectivement, dans tous les écoquartiers qu'on regarde aujourd'hui, on va avoir une nature plus sauvage, mais qui va aussi servir à occuper un certain nombre de parterres pour limiter l'usage et la fréquentation de certains espaces qu'on veut apaiser. Donc ça devient un instrument de sécurisation passive, donc ça peut être aussi instrumentalisé. Donc c'est aussi important de voir effectivement comment sont repris un certain nombre d'initiatives qui étaient dans une critique urbaine au point de départ des politiques menées qui effectivement laissaient une place à une nature très maîtrisée. Et comment cette nature plus sauvage, plus endogène, plus multiforme et récupérée aussi dans des projets urbains et dénaturée finalement de sa fonction première, ce qui n'empêche pas le Green Guerrilla de continuer à agir. Voilà, donc c'était mes deux questions qui étaient sous-jacentes dans la présentation. Mais j'ai du mal à m'exprimer.
Donc juste pour dire, je pense qu'il y a deux questions qui sont là depuis hier, c'est l'action de la institutionnalisation et puis il y a quelque chose qui est ressorti, c'est la marchandisation par certains de ces acteurs de ces processus-là, parce que vous n'en avez pas parlé, mais la guérilla jardinière, c'est un mouvement activiste, certes, mais c'est aussi récupéré par des professionnels de l'aménagement et qui le vendent et donc ils le font payer. Donc il y a énormément de questions qui sont posées pour lesquelles je pense qu'il ne faut pas prendre, enfin, il ne faut pas être trop dans le dualisme.
Oui, tout à fait. Non, mais je voulais dire simplement... S'il y a plein de questions, parce que ça suppose un débat, là, on voit. Mm-hmm. Ceux qui veulent faire une pause peuvent la faire, mais on peut rester entre nous, voilà, pour continuer. Bon, merci. Finalement, vous avez un peu répondu à la question que j'avais posée à Berléant sur les formes. Voilà. Donc, moi, finalement, on va échanger, j'espère, après, parce que j'ai beaucoup de choses à... Beaucoup de questions, mais je ne vais pas... Simplement, là, je voulais parler de... J'avais la même question sur la question de la forme. Moi non plus, je n'avais pas tellement compris. Si on parle de la forme, c'est-à-dire de quelle forme ça prend cette esthétique de la participation, c'est-à-dire quoi les palettes, le conteneur, le transat, vous savez, tout ça. Ce n'est pas très intéressant, en fait. Et même ça, on a l'impression que maintenant... En fait, ça, c'est plutôt des résultantes d'un processus. Si on le prend comme une forme... une intention de projet, C'est un peu, on parlait de marchandisation, aujourd'hui on vend un peu ça. On vend ça. Moi, si je parle en tant que citoyen, je ne vais pas parler pareil en tant que paysagiste qui aussi vend. Par exemple, j'anime en ce moment, depuis, je suis en, quelque part, on va dire, en résidence depuis 3 ans dans les vieux corons à Douai pour le Pacte, qui est un bailleur social. Et on mène un processus de fond, mais ça demande. On ne peut pas venir et imposer quelque chose aux gens, justement. Si on veut comprendre ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent faire, il ne faut pas projeter. Souvent, on voit les mouvements que vous étudiez projettent beaucoup de choses, projettent des formes esthétiques, projettent des envies de ville qui ne sont pas forcément le besoin des gens. Surtout les gens, moi je vois les gens avec qui je travaille, ce sont des gens dans des logements très sociaux qui sont pour beaucoup au RSA. Ils n'ont pas la même envie que moi quand j'ai envie de mettre des plantes sauvages partout dans la ville, vous voyez. Mais moi, ce qui me semble plus intéressant, plutôt que cette question de forme, c'est finalement la question du processus, justement, parce que finalement, c'est ce processus-là qui est intéressant, comment on mène les choses. Et après, la forme, c'est la résultante de ce processus.
Si on veut avoir un peu de débat...
Oui, bien sûr. Non, mais je en plus, c'est pas... Voilà, bon, on verra.
Bah, justement, le processus, c'est important. Et je pense que c'est ça qu'il faut questionner. C'est-à-dire que... La transformation du territoire, ce n'est pas le projet fini, c'est tout ce qu'il y a avant et après qui peut prendre 20 ans. Alors, toutes les interactions qui se font dans cet avant et après, pendant, ce sont des interactions qui font partie du projet. Donc, l'analyse que je fais est justement liée à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune traduction littérale de ces actions après, finalement, dans les projets. Mais ces actions font partie du processus et c'est ça qui est inquiétant parce qu'elles déplacent les questions et elles confortent l'aménagement sur le fait qu'il est en train d'inclure. Parce que ce n'est pas une forme d'institutionnalisation, ça. L'institutionnalisation, c'est une inclusion politique qui donne accès au pouvoir aux acteurs. Là, les acteurs n'ont pas accès au pouvoir. Ils ont accès à un contrat de présence et d'affichage de leur présence qui sert... à conforter le pouvoir du fait qu'il a inclus quelque chose d'alternatif. Ça, c'est très différent. Et ça fait partie du processus. Et mais pour ça, il faut faire de la critique. Il faut pas dire « Ah non, mais alors il n'y a pas d'alternative ». Mais non, l'alternative, c'est la critique. Il faut l'exercer.
Bonjour. Je voulais juste vous poser une question. Donc, je suis au ministère de l'écologie. Et donc, ça m'intéresse la façon dont vous avez décrit... les processus, disons, d'instrumentalisation de ces nouvelles pratiques critique urbaine et des formes urbaines. Donc vous avez tendance à être assez, je dirais, radical dans votre diagnostic. Et je me demandais si le fait que certaines de ces pratiques soient parfois reprises par les services de l'État ou les services de la ville ou des collectivités ne conduisait pas à une transformation aussi de leur façon d'appréhender les modalités d'aménagement urbain. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une critique positive à essayer de voir dans quel cas et à quelles conditions on n'a pas ici une instrumentalisation dans le mauvais sens du terme, mais je dirais plutôt un effet de pollinisation, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait féconder d'autres approches, parce qu'il se trouve que dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui dans nos politiques publiques, on cherche à renouveler justement nos façons de faire de la ville, notamment au ministère de l'écologie avec des programmes comme Nature en ville, les stratégies Nature en ville et autres. Et bien sûr, ce que vous avez dit sur les écoquartiers, je partage assez bien votre diagnostic sur le sujet. Mais au-delà de ces démarches institutionnelles, disons largement marketées, si on peut dire, que sont les écoquartiers, est-ce qu'il n'y a pas d'autres expériences peut-être plus discrètes dans lesquelles on pourrait reconnaître un effet de transformation par l'assimilation de ces pratiques plutôt que par leur instrumentalisation?
Je pense que c'est pour ça.
Oui, donc effectivement, on a 20 minutes, donc ça oblige à être très synthétique et plus affirmatif sur certains propos. Mais effectivement, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont plus discrètes et souvent plus au long cours de présence, effectivement, que ce soit d'initiatives citoyennes qui font un travail de fond dans la durée. ou artistique ou même de tactical urbanism. Je pense notamment à des initiatives comme le graphiste Malt Martin que j'ai montré tout à l'heure qui est intervenu plusieurs années dans un quartier à partir de la parole des habitants et qui l'a mise en scène dans l'espace public, ou des initiatives très ancrées comme le bruit du frigo à Bordeaux qui a pu faire un travail d'interface entre des initiatives locales et un débat avec les politiques publiques. Donc évidemment, elles existent aussi et heureusement, on sent qu'il y a besoin de messages d'espérance. J'ai dû être trop radicale, non ? Mais en tout cas, évidemment, ça ne se décrète pas. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un certain angélisme avec tous ces mouvements, sauf que finalement, il n'y a, malgré ces critiques urbaine, il n'y a pas de question sur ce qu'est la ville aujourd'hui, quelle ville on produit aujourd'hui, et donc comment on institue ce débat. Et je pense que la recherche, elle a un rôle à jouer aussi par rapport à ça.
Je voudrais juste compléter en disant que je pense qu'il y a énormément de bonnes intentions et énormément d'avancées, mais il manque encore beaucoup de recentrement sur le sujet, sur son rôle dans tout cette mise en avant de l'environnement, sur le fait que ce qui est important, c'est surtout donner aux citadins la possibilité de s'émanciper, de vivre en collectif sans que ça soit forcément une manière de s'isoler. Et je pense que par contre, sur ces sujets-là, il y a très peu. Enfin, il y a une énorme responsabilisation du citadin et il y a une espèce de manière de se déresponsabiliser, par contre, de la part de l'institution. Enfin, j'ai l'impression que ça, c'est le risque et il faut être très attentif.
Alors, merci beaucoup. Et puis, ne partez pas! Parce que nous avons réussi à tenir quand même le timing, vous n'allez pas. Voilà. Merci.